Jusqu'au 25 septembre, le deuxième étage, de la bibliothèque municipale de Prague propose une exposition intitulée La fin de l'avant-garde, avec un point d'interrogation, des accords de Munich au putsch communiste. Et aujourd'hui, Anna Kubiszta vous propose un entretien avec l'une des commissaires de cette exposition. Elle parle français et elle s'appelle Anna Pravdova.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle, une rubrique culturelle où j'accueille aujourd'hui Anna Pravdova, historienne de l'art. Bonjour.
Bonjour.
Anna Pravdova, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises pour différentes expositions dont vous avez été la commissaire. Vous êtes la commissaire d'une exposition qui se déroule à l'heure actuelle jusqu'au 25 septembre à la bibliothèque municipale de Prague. Et c'est une exposition qui s'intitule « La fin de l'avant-garde, point d'interrogation ». Le point d'interrogation est important, des accords de Munich au putsch communiste de 1948. Voilà, pour préciser un petit peu les dates. Alors pourquoi justement ce point d'interrogation à ce titre, « La fin de l'avant-garde » ?
Par rapport au titre, surtout par rapport au point d'interrogation, je voudrais dire que donc je suis une des commissaires de l'exposition. La commissaire principale, c'est Hanna Rousova. Et elle a choisi, je pense qu'on était en tout cinq, donc quatre autres commissaires pour travailler avec elle sur cette exposition. Et je dis ça parce que donc son travail en général est intéressant. J'ai beaucoup d'estime pour ça parce que elle pose des questions, elle ouvre des problèmes. Et elle ne veut pas apporter des questions toutes faites, des réponses toutes faites, etc. Justement, elle veut s'interroger. Et c'était ce projet aussi, c'est pourquoi, donc, quand on lui a proposé de faire cette exposition, on a proposé à elle. Et elle ne voulait pas toute seule donc, travailler sur cette période qu'elle connaît parfaitement, mais elle voulait ouvrir un débat avec d'autres historiens d'art. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi une équipe. C'est pour ça aussi le point d'interrogation dans le titre, parce que ce projet, c'est ouvrir de nouvelles questions, poser de nouveaux problèmes. Bien sûr, on peut dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais le but de l'exposition, c'était pas justement de dire c'était comme ça pendant la guerre, c'était montrer quelles questions ça peut susciter encore, cette période, etc.
Alors, il faut préciser justement que c'est une génération d'artistes jeunes, très jeunes en fait, et qui créent justement en grande partie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même une création qui est évidemment très influencée par le contexte historique. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques figures un petit peu phares de cette génération ?
Donc c'est une remarque importante que c'était des artistes très jeunes, pour la plupart donc à l'époque pas très connus. C'est difficile de présenter quelques figures phares. Je vais peut-être présenter quelques groupes ou cercles d'artistes importants. Il y a bien sûr beaucoup d'artistes du groupe 42, qui était un groupe donc qui porte le titre de l'année où il a vu sa naissance. C'est surtout donc Kamil Hoták, František Hudeček, faisait partie de ce groupe Jiří Kolář, mais à l'époque en tant que poète, Jan Smetana et d'autres artistes. Il y a bien sûr le groupe Pra, que c'est beaucoup présenté dans la partie de Lenka Bičovská. C'était de jeunes artistes qui faisaient beaucoup d'expérimentations, des sortes de performances. On voit dans la dernière partie donc des photographies de ce qu'on appelle rádění. Je ne sais pas exactement comment l'exprimer en français, mais c'était des sortes de performances ou de scènes dans les appartements que les jeunes artistes faisaient et un photographe les photographiait. Ce qui est intéressant, c'est que donc l'architecte de cette exposition est aussi un artiste, Zbigniew Balatran. Il a réactualisé cet événement qui s'est fait pendant la guerre dans les vidéos qu'on voit projetées au-dessus des photos d'époque. On voit donc la vidéo qui essaye reconstruire, mais pas fidèlement à l'historique, mais plutôt réinterpréter cet événement par un artiste contemporain. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc il y a ces artistes-là. Après, il y avait un groupe qui aussi a vu le jour pendant la guerre qui s'appelle Sedm v říjnu, 7 au mois d'octobre, parmi lesquels il y avait donc Václav Hejna, dont on voit beaucoup de toiles ici. Il y avait un historien d'art, Pavel Kropáček, dont on voit plusieurs portraits dans l'exposition, parce que C'était un important théoricien qui était dans la résistance, qui était arrêté et qui était déporté. Donc il y a un hommage aussi, une sorte d'hommage qui lui est rendu ici dans cette exposition.
Alors comme on disait justement que ce sont des œuvres qui sont un peu indissociables du contexte historique, quels sont un peu les thèmes justement qui intéressent ces artistes? Je suppose qu'évidemment une grande place est accordée par exemple aux conditions de vie, par exemple, enfin une forme de représentation de la, peut-être de la grisaille, de la vie sous le protectorat.
Je pense que la grisaille se voit surtout dans les couleurs choisies. On voit qu'en général l'exposition est très sombre. Dans les thèmes, on voit ça plutôt pas sous la forme concrète, mais par exemple beaucoup le thème d'aliénation, alors sous différentes formes, soit la solitude, mais aussi l'amour, mais l'amour un peu... toute cette salle, par exemple, où on se trouve, il y a une partie dédiée à l'amour et différentes formes d'expression de l'amour pendant la guerre, mais on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, de solitude,
de mélancolie.
De mélancolie. Ouais. Une autre façon d'exprimer cette étrange position dans le monde que les artistes ressentaient à cette époque, c'est la théâtralisation, par exemple, du monde. On voit ça dans la partie qui a été choisie par Wojciech Lahoda, qui a toute une série de scènes de théâtre, mais pareil, très solitaire, mélancolique aussi. C'est plutôt cette atmosphère qui est présente dans les œuvres. Il y a aussi donc l'expression de la brutalité, bien sûr. Il y a les photographies qui expriment ça très bien. Ce qui est intéressant aussi dans la partie culturelle et historique, c'est aussi une esthétisation de cette réalité très brutale. Il y a des photographies, donc, avant que les Juifs soient déportés ici, on les a rassemblés, on a confisqué tous leurs biens. Il y avait un centre de triage où les autres Juifs travaillaient et triaient les chaussures d'un côté, les livres d'un côté, les objets. Et il y avait quelqu'un qui travaillait dans ce centre de triage, qui a photographié ces stocks de choses, mais de manière très artistique et très géométrique, une manière d'esthétiser l'horreur qui est très étonnante pour nous, mais qu'on peut comprendre peut-être à l'époque, c'était sans doute quelqu'un qui était très concerné par ça, qui était peut-être même déporté peu de temps après lui-même. Donc c'était peut-être cette manière de transcender quelque chose ou de surmonter cette réalité terrible par la rendre organisée, géométrique, esthétique. Et il y avait même quelqu'un qui a ensuite pris ces photos faites par ce photographe et qui en a fait des collages qui sont aussi des collages d'avant-garde presque au niveau formel. C'est très étonnant de faire ça avec ce genre de photographie. Donc il y avait différentes manières de surmonter cette période qui devait être très très dure à vivre.
Chaque commissaire a eu le loisir de choisir ce que cette avant-garde, en tout cas cette jeune génération, représentait pour lui. Vous êtes intéressé à un événement un peu particulier, c'est-à-dire en juin 1946, la galerie La Boétie à Paris a organisé une exposition sur cet art tchécoslovaque, ce jeune art tchécoslovaque déjà à l'époque. Et vous avez reconstitué en fait cette exposition. On peut peut-être éventuellement aller faire un tour et puis en parler. Donc, on se trouve là dans cette première partie de l'exposition sur l'avant-garde ou sur la fin de l'avant-garde, point d'interrogation, qui est consacrée à l'art tchécoslovaque, l'exposition sur l'art tchécoslovaque à Paris, à la galerie La Boétie. Alors, qu'est-ce que c'était que cette exposition, justement, qu'il a organisée?
Je voudrais juste dire, au début, beaucoup de gens pensent que c'est la première partie, mais en fait, il n'y a aucune hiérarchie dans cette exposition. Donc, chacun est libre de circuler comme on veut, et ça se veut plutôt comme une sorte d'intermède entre les deux parties de l'exposition qui sont donc d'un côté et de l'autre de cette reconstruction. Et donc, c'était une exposition qui était organisée par le ministère de l'Information à l'époque où travaillait Adolf Hofmeister en tant que chef de section culturelle. Et il se trouve qu'à l'époque, à Paris, donc le peintre Joseph Schima était peu avant nommé attaché culturel. Et eux, ensemble, ils ont donc voulu présenter l'art tchèque à Paris, ce qui était très ambitieux. Ça montre à quel point la politique culturelle tchécoslovaque juste après la guerre était ambitieuse. Ils voulaient présenter l'art tchécoslovaque à la fois donc depuis 1918 depuis la création de la République et puis ce qui s'est fait pendant la guerre. Au début, ça devait être un grand projet ensemble et puis finalement, ils ont eu des problèmes à trouver un grand espace, donc ils ont séparé en deux. Il y a eu cette exposition en mois de juin 1946 à la galerie La Boétie et à la fin de l'année 1946, il y a eu l'autre exposition à l'Orangerie à Paris. Donc nous, on a voulu montrer en fait ce que Shima Eluard a choisi parmi cette jeune art tchécoslovaque, donc qui s'est fait pendant la guerre. Donc c'est un peu aussi de confronter le regard actuel des historiens d'art actuel avec ce qu'on a choisi à l'époque de cette même période. Et donc
et justement, alors en quoi justement vos choix actuels de jeune commissaire en 2011 diffèrent ou finalement rejoignent ce que eux ont fait à l'époque, Joseph Shima et Paul Éluard?
Eux, ils ont voulu choisir exprès les artistes qui n'étaient pas connus avant la guerre. Donc, en fait, ils allaient dans les ateliers, on leur recommandait des artistes, etc. Et ils ont choisi ce qu'ils voyaient, ce qu'ils trouvaient intéressant, sans se dire celui-là est connu, celui-là n'est pas connu, sans avoir cet appui sur déjà des artistes renommés. Donc, il est intéressant de voir. Il y a quelques artistes dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Il y avait, par exemple, un certain Studeni qui figure au catalogue et on ne sait pas du tout qui c'est, etc. Mais pour la majorité, c'est les artistes qu'on a retenus pour l'histoire aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup des peintres du groupe 42. Ils ont pris les peintres du groupe Sedum Vrino au mois d'octobre. De ce groupe-là aussi, quelques artistes. Et puis, quelques artistes solitaires comme Zdeněk Sklenář, par exemple. Mm-hmm. Et puis, plusieurs sculpteurs, mais il faut dire que leur choix était aussi un petit peu politique. Il ne faut pas oublier cet aspect que c'était une exposition organisée par le ministère de l'Information, donc il fallait qu'il y ait aussi des peintres tchèques et des peintres slovaques, qu'il y ait des peintres de Prague, mais aussi des peintres de Brno, qu'il y a un peu tous les groupes soient un petit peu représentés, etc. Donc
c'était une exposition aussi qui devait être diplomatique vis-à-vis de, par exemple, voilà, de Brno ou des Slovaques.
Bien évidemment, c'était un événement politique et même il y a eu quelques critiques du choix et Shima a dû expliquer dans une revue d'époque pourquoi, comment ils ont procédé dans leur choix. Et justement, il explique que le choix vraiment était prendre des artistes inconnus, donc aller voir dans les ateliers, etc., et choisir eux-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est Éluard qui avait le dernier mot, donc il choisissait ce que lui il trouvait intéressant. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Éluard, à l'époque, était déjà très actif au Parti communiste, déjà intéressé par le réalisme socialiste. Et je pense que ça se reflète légèrement dans le choix, c'est-à-dire ils ont pris les choses intéressantes, mais peut-être pas les plus audacieuses au niveau formel, etc. C'est une interprétation que je fais aujourd'hui, mais il y a sans doute tout ça à jouer aussi dans le choix de l'exposition.
Et est-ce que vous savez quelles ont été un peu les réactions en France à cette exposition? Je suppose que vous avez pu avoir accès à des archives de journaux, de revues d'art, par exemple.
Alors, j'ai regardé les revues d'époque, bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup plus de réactions ici qu'en France. Je pense que c'est une exposition qui était très importante, surtout pour les artistes tchèques, parce que ça leur a permis aussi d'aller à Paris, au vernissage. Ils ont été tous invités. Quant aux réactions à Paris, je pense que l'exposition intéressait le public, mais dans les critiques, on retrouve souvent cet étonnement que c'est très sombre, cette constatation que c'est très sombre, alors que les gens savaient que c'était des choses faites pendant la guerre et bien sûr, les choses se sont faites pendant la guerre aussi en France. Donc, même en connaissance de cause, les gens étaient quand même étonnés que c'est aussi sombre que ça. Donc, c'est sans doute lié à quelque chose qui est propre à notre mélancolie, peut-être au-delà du contexte historique, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, presque toutes les critiques ont relevé ce point, que c'était vraiment très sombre.
Alors, je rappelle à la Pravdova que cette exposition qui s'appelle « La fin de l'avant-garde », point d'interrogation, des accords de Munich en 1938 au putsch communiste de 1948, ça se déroule dans la galerie qui est installée à la bibliothèque municipale, mais c'est organisé par la galerie de la ville de Prague. Voilà, et c'est jusqu'au
25 septembre.
Merci beaucoup.
Pas de quoi.